Vous écoutez RTL.
Tout de suite sur RTL, on explore les volcans. Bonjour Arnaud Guérin.
Bonjour.
Bienvenue chez nous.
Merci. Vous êtes géologue, présentateur de la série documentaire des volcans et des hommes qui est diffusée tous les jours sur Arte, 17h35. Alors grâce à vous, on va découvrir comment les humains ont tissé des liens avec les volcans, malgré les risques, hein, parce qu'il y en a forcément. Mais d'abord, on va faire un peu de pédagogie. C'est quoi un volcan ?
Un volcan, c'est un tas de cailloux. C'est pas une montagne au sens géologique du terme. Ça s'est pas plissé. Ça s'est juste, c'est venu juste par projection. Donc c'est un endroit de la planète où le magma remonte et va sortir à l'air libre. Et donc ça va constituer un tas de cailloux qui souvent arrête les nuages. Donc il y a de l'eau. Ces projections volcaniques, elles sont fertiles. Donc les gens vont développer leur habitat. Et puis bien sûr, il y a des moments, ce tas de cailloux, il explose. C'est les éruptions, ça intéresse les volcanologues. Mais ça peut faire des dégâts qui sont des dégâts importants. Donc il y a toujours cette dualité qui existe entre le côté bienfaiteur et le côté destructeur.
Et ces tas de cailloux, il y en a combien dans le monde ? En un chiffre, actif.
Actif, 1511 au dernier recensement.
Et on va en explorer quelques-uns.
Justement, on va voyager grâce à vous en France, mais aussi en Islande, en Indonésie, au Japon. Bienvenue dans le monde merveilleux et inquiétant des volcans sur RTL.
Un volcan islandais qui fait des siennes et trouble le trafic aérien.
14h, 15h.
Autour du volcan, c'est comme si la nuit était tombée.
Tous les vols Air France à destination de la Grande-Bretagne, de l'Irlande, mais aussi d'Oslo et de Copenhague sont annulés.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Eia Fiatla Yokut.
Les curieux sont sur RTL.
Sinon, dites le volcan.
Volcan, pourquoi les hommes vivent au pied des volcans, comment cohabitent-ils avec ces géants menaçants? C'est ce qu'on découvre avec notre invité, le géologue Arnaud Guérin. Alors donc, ce volcan islandais, Eyjafjallajökull, bon j'ai dit ça n'importe comment, mais c'est pas grave, toute l'équipe de la curiosité s'est entraînée. On va commencer avec François Touchat, notre réalisateur.
Eyjafjallajökull,
c'est pas mal. Victor Pourcher.
Eyjafjallajökull.
Ah, je pense que c'est un peu mieux. Il y en a deux qui se planquent en face de moi.
C'est Coralie Lutinier
et Perrine Chiquet. Il faut qu'il y en ait une qui se lance, Perrine.
Eyjafjallajökull.
Ah, c'est pas mal, Coralie.
Achoum. Moi, comme je
Bastien,
le connais bien.
Bastien, il fait comme s'il est parti.
Eyjafjallajökull.
Ouais, d'accord. Et Sidonie.
Comme on se connaît bien, c'est son petit nom.
Bon, allez, heureusement, on a Arnaud Guérin qui va nous dire exactement comment ça se prononce.
Ah, ça se prononce Eyjafjallajökull.
Donc personne n'avait bon.
C'était pas mal là-bas.
Hein. Oui, avait, enfin, ce qui est sûr, c'est que Sidonie et moi, on était très très loin du compte. Vous nous rappelez pourquoi il a pu à ce point provoquer des difficultés, paralyser le trafic aérien? C'était qu'en 2010, c'est ça?
2010, oui. Ouais. Alors là, c'est une prise de conscience à l'échelle mondiale, et en particulier pour nous, Européens. C'est de voir que ce volcan qui est situé en Islande, ça paraît très lointain pour beaucoup de gens qui vivent ici. En fait, on peut en subir les conséquences qui sont les conséquences directes. Et puis on s'est aperçu que nos sociétés sont extrêmement vulnérables et sensibles à ce type d'activité volcanique. Alors, c'est typiquement islandais, c'est dans le nom. Jökull, ça veut dire le glacier. Fjall, ça veut dire la montagne. Et Eyjar, ça veut dire les îles. Donc c'est le glacier de la montagne des îles. Oui. Ça veut dire que le magma, il est remonté dans un glacier. Et vous imaginez le choc thermique entre du magma qui remonte à 1100 degrés dans de la glace. Eh bien, il va y avoir l'eau va passer directement de l'état solide à l'état gazeux. Donc de 1 litre, on va passer à plus de 1000 litres. Donc ça va faire une explosion qui est gigantesque et ça va fragmenter ce magma en tout petits morceaux qu'on appelle des cendres volcaniques. Mmh. Ça n'a rien à voir avec les cendres qu'on a dans une cheminée, hein. Il n'y a pas de combustion dans un volcan.
Mmh. C'est quoi des cendres volcaniques? Alors, si c'est
des
pas
cendres volcaniques, c'est des tout petits morceaux de magma qui sont fragmentés et qui vont refroidir très vite. D'accord. Alors ça pose un problème.
Et ça s'est retrouvé très très haut en altitude.
Exactement, parce que ça monte en altitude, à plus de 10 km d'altitude, là dans le cas de l'Eyjafjallajökull. Et donc c'est parti derrière avec les vents dominants, ce qu'on appelle les jet streams, qui nous permettent de traverser l'Atlantique assez rapidement quand on a les vents dans le dos, ou moins rapidement quand on a les vents de face, et juste à l'altitude où les avions passent. Et là, il y a un énorme problème pour les avions. C'est que la température qui règne à l'intérieur des réacteurs est plus haute que la température de fusion de la silice. Donc en fait, ça va donner une espèce de pâte à modeler à l'intérieur du réacteur, ouais. Et c'est pour ça que c'est dangereux pour les avions. Donc il y a des centres dans le monde qui étudient ça. Oui. Il y en a 5 à l'échelle mondiale. Celui pour l'Islande est situé à Londres. Et donc voilà, c'est étudié. Et les pilotes d'avions ont des rapports quotidiens sur les panaches volcaniques dans le monde.
Il y a plusieurs types de volcans dans le monde. Est-ce qu'on les a classifiés, je ne sais pas, en fonction de leur dangerosité ou de la manière dont ils se mettent en colère?
Alors, pour faire simple, dans le monde, il y a 3 grands types de volcans. Il y a ceux qu'on ne voit pas, qui sont sous la mer. Donc, c'est 70% des volcans de la planète.
Oui, donc, on ne craint rien avec cela.
On ne craint pas grand-chose, sauf quand ils arrivent à la surface et ça donne des îles. Dans la série qui passe sur Arte, là, on est allé sur une île qui s'appelle Surtsey, donc qui est sortie du fond de la mer en 1960. Ensuite, il y a les volcans qui sont des volcans plutôt joyeux, sympathiques. C'est le Piton de la Fournaise, par exemple, qui est en éruption aujourd'hui. Ouais. Donc, c'est ce qu'on appelle un point chaud, c'est-à-dire une remontée de magma profonde qui va percer la plaque et qui va donner des éruptions qui sont des éruptions avec des coulées de lave, pas explosives ou relativement peu explosives. Et puis après, il y a des volcans vraiment dangereux. C'est toute la ceinture de feu du Pacifique, plus les Antilles, etc. C'est ce qu'on appelle des zones de subduction, c'est-à-dire que là, il y a la plaque océanique qui va passer sous la plaque continentale. Et là, ça va donner des magmas qui sont très visqueux, qui vont garder les gaz à l'intérieur et qui vont donner un volcanisme explosif.
Et donc, vous avez enquêté, voyagé pour partir à la rencontre des humains qui vivent en harmonie le plus souvent avec ces volcans. Alors, il y a plein d'histoires qui sont fabuleuses. Il y en a une qui nous mène en Islande. On va écouter un extrait de votre doc où il sera question de moutons et d'une île pas très accessible quand même. Écoutez.
Cette communauté de pêcheurs entretient depuis des générations une tradition bien plus terrienne, héritée de leurs ancêtres scandinaves et irlandais, l'élevage de moutons. Les volcans y jouent aussi un rôle, et les bergers se sont adaptés. Depuis des générations, en raison de leur isolement géographique, ces insulaires exploitent la moindre parcelle propice au pâturage.
Et c'est physique d'accéder à cette île volcanique. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi et comment d'ailleurs?
Alors en fait, c'est une transhumance, donc jusque-là c'est assez simple. Ouais. Sauf que là on est sur des îles qui sont des volcans. Et sur ces volcans, l'air pousse bien mieux qu'ailleurs parce que c'est très fertile. En l'occurrence, il y a eu une éruption en 1973 qui a fait des dépôts. Et l'herbe pousse, mais alors vraiment, on a presque envie de la manger tellement elle est grasse et elle est belle. Sauf qu'il faut monter une falaise qui fait 150 mètres. Et il faut amener les moutons. Donc en fait, on part en bateau.
Il n'y a pas de port, quoi.
Il n'y a pas de port.
Pas de lieu de
on part en bateau, on monte. Donc les hommes sont débarqués et montent avec des cordes. Et puis ensuite, il faut monter les moutons. Hors de question de les faire monter avec des cordes. Donc en fait, on met des caisses à poissons. On met les moutons dans les caisses à poissons et on va hisser les moutons 150 mètres. Donc il faut un espèce de voyage dans l'air. Pour arriver sur cette île et profiter de cette herbe unique au monde. Il faut dire que ces gens qui vivent dans cet archipel qui s'appelle Vestmannaeyjar, l'archipel des hommes de l'Ouest, ont pas de place. Donc de tout temps, et ce sont des pêcheurs, mais ils ont toujours eu des moutons, parce que le mouton est vraiment une des colonnes vertébrales de la société islandaise, et donc ils ont toujours eu des moutons pour survivre.
Allez, on continue de découvrir ces histoires d'hommes et de volcans. En métropole aussi, tiens, les derniers carriers de la pierre de Volvic. À tout de suite sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Les volcans sont des géants assoupis.
Sidonie Bonnec.
Le jour où ils décident de se réveiller, gare à la catastrophe.
Thomas Hugues.
Des millions de personnes vivent dans leur ombre menaçante.
Ces événements ne sont pas toujours prévisibles. Et ils font des victimes.
Sur RTL.
Depuis des millénaires, les humains cohabitent avec les volcans, ils les craignent, mais ils approchent aussi, ils les vénèrent comme des dieux. C'est ce que nous raconte notre invité sur RTL, le géologue Arnaud Guérin. On va partir avec vous maintenant en Indonésie, au pied du Bromo. Quel est ce volcan d'abord? Vous nous le décrivez, est-ce qu'il est dangereux?
Alors, il est sur l'île de Java. C'est un volcan qui est en éruption. Il est rentré en éruption il y a 2 jours. C'est un volcan gris, explosif, donc un volcan potentiellement dangereux. Mais globalement, dans sa vie quotidienne, j'allais dire, il est plutôt bienfaiteur pour les gens qui vivent là. Ils vivent à peu près à 2000 mètres d'altitude. Ouais. Le climat est plutôt assez dur pour eux. Mais ils bénéficient des retombées de cendres qui, quand elles ne sont pas trop importantes, leur donnent une terre qui est extrêmement fertile.
Qu'est-ce qu'ils font pousser, les Indonésiens, sur les flancs de ce volcan?
Alors, beaucoup d'oignons, il y a vraiment énormément d'oignons, des poireaux, des légumes, une espèce de grande bête là. C'est beaucoup beaucoup de légumes. Mm-hmm. Et une fois par an, eh bien en fait, ils vont rendre hommage à ce volcan. Donc nous on dit un volcan, eux ils disent une.
Ah, c'est une mère nourricière ?
Ouais, exactement. À l'échelle du monde entier, 90% des peuples considèrent les volcans comme, comme une matrice féminine, une matrice qui donne la vie. Et donc là, ils vont rendre hommage à ce volcan.
Donc ils font des offrandes ?
Alors, ils cultivent leurs plus beaux radis, leurs plus beaux poireaux, leurs plus beaux choux, et ils vont descendre au mois de juillet dans cette grande caldeira, c'est-à-dire ce cratère d'effondrement où trône le volcan en plein milieu. Ils vont aller au temple, au pied de ce volcan. On va bénir les offrandes et ensuite on va, la nuit de la pleine lune de juillet, on va monter sur ce volcan pour aller jeter les offrandes dans le cratère pour remercier le Bromo de tout ce qu'il vous donne pendant l'année. Alors ça, c'est une part des vœux. L'autre vœu important, c'est bien sûr de ne pas pâtir d'une grosse éruption, parce que bien sûr, avec un volcan, il y a toujours ce côté, on peut tout perdre. Et c'est ce qui fait aussi la valeur de la vie des gens qui vivent au pied des volcans. Moi, j'aime à dire que c'est les volcans, c'est un exauceur de goût de la vie. quand on comprend bien ça quand on va fort à Naples, par exemple, où vous avez ces gens qui ont une énergie absolument incroyable, qui est due au fait qu'ils peuvent tout perdre du jour au lendemain. Donc, vous relativisez vraiment beaucoup de choses avec les volcans.
On va continuer de voyager. On va partir au Japon dans un instant avec vous, Arnaud Guérin. Mais d'abord, quand même, un petit tour en France métropolitaine. Du côté de Clermont-Ferrand, tiens, pour rappeler le nom de la cathédrale et le lien avec les volcans. Enfin, le surnom de la cathédrale.
Ouais, la cathédrale est surnommée la cathédrale des charbonniers à cause de cette signature graphique qui est vraiment très forte. C'est une cathédrale toute noire qui est construite avec une pierre qui s'appelle la pierre de Volvic qu'on exporte aujourd'hui à travers le monde pour les plus grands chantiers de design. Et il y a des carriers qui travaillent encore
aujourd'hui.
Oui, à la main. C'est vraiment une des derniers, vraiment un savoir-faire tout à fait extraordinaire.
Pourquoi elle a quoi cette pierre de particulier ?
Elle a, c'est une coulée d'un des puits de la chaîne des puits, des derniers volcans qui sont rentrés en éruption dans cette chaîne des puits. La dernière fois, c'était il y a 6700 ans, donc c'est vraiment du volcanisme récent. Et là, c'est à peu près 15 000 ans pour cette pierre. Et cette pierre, ils vont l'exploiter à la main parce que, alors là, ils ont une relation qui est complètement charnelle avec cette pierre. Ils plantent des coins métalliques et ensuite ils l'écoutent chanter. Et je peux vous dire que réellement, on a l'impression qu'on est en train de fendre du bois. Cette pierre, elle a un son qui est tout à fait particulier. Et ils vont l'exploiter avec. C'est presque une adoration. En tout cas, ils ont un lien qui est un lien presque charnel avec ce minéral qui est utilisé, qui est la signature de l'Auvergne en termes d'architecture.
Arnaud Guérin, vous racontez ces histoires passionnantes et on les voit aussi en images dans votre livre Les volcans et les hommes, publié chez Arte Glénat. Et dans un instant, vous nous emmenez au Japon vivre plusieurs expériences, dont une incroyable, un bain de sable volcanique. Allez, on se met tout nu et on se lave le corps.
Il faut faire ça pour commencer.
Oui.
On se met
Allez,
tout nu.
À poil.
RTL. Dans la ville du Pic de Dante, un volcan change la nature en cauchemar.
La curiosité est un vilain défaut.
Pierce Brosnan.
Sidonie Bonnec.
Linda Hamilton.
Thomas Huck.
Mon Dieu !
Avec lui, c'est la nuit en plein jour.
Vivre au pied d'un volcan, c'est l'expérience que nous propose notre invité, le géologue Arnaud Guérin. Et heureusement, ça ne se passe pas toujours aussi mal que dans le film le Pic de Dante. C'est plusieurs centaines de millions d'humains qui vivent au pied des volcans. 800 millions, le chiffre est
Ouais, entre 500 et 800 millions en fonction de la taille du cercle qu'on trace autour des volcans.
Bien sûr, on l'a
vu avec le volcan islandais, l'Eyjafjallajökull. Là, on peut s'apercevoir qu'il peut y avoir des conséquences, y compris chez nous. Donc,
on vit tous autour de ce volcan-là, finalement, en Europe.
Ça peut arriver, oui.
Vous savez, on vit sur une petite planète. 6370 km pour faire le voyage au centre de la Terre, donc c'est vraiment pas grand. Donc on s'aperçoit que globalement, s'il se passe une grosse éruption, d'ailleurs le cinéma hollywoodien s'en empare pour des scénarios catastrophes, ça peut avoir des conséquences qui sont des conséquences mondiales. On parlait de l'Islande, 1783, l'éruption du Laki, c'est ce qui est à l'origine, et c'est prouvé scientifiquement, des premières révoltes qui vont donner la Révolution française. Donc on s'aperçoit que les conséquences, elles peuvent être vraiment importantes.
Alors, dans vos voyages, et on peut les lire dans ce livre, Les volcans et les hommes, ou les voir sur Arte, dans vos voyages, il y a le Japon, et notamment cette île de Kyushu. Alors, c'est un volcan qui s'appelle Sakurajima, où l'on peut tester un bain pas comme les autres. On écoute un extrait de votre doc.
Je me rends dans un bain de sable chauffé par les fumerolles volcaniques. Ce drôle de thermalisme, baptisé Tsunamushi, consiste à se faire ensevelir jusqu'au cou sous plusieurs pelletées d'un sable fumant.
Alors vous voilà dans le sable, moi je trouve ça complètement dingue. Déjà on se met tout nu ou on garde quelque chose ? On se lave ?
Alors, on se lave, on fait ces ablutions dans un espèce de des thermes. Et puis ensuite, on vous donne un espèce de kimono assez épais, avec des imprimés un peu kitsch à la japonaise.
Oui.
Et voilà parti, vous sortez du bâtiment et vous arrivez sur la plage. Sur cette plage, il y a des fumerolles qui sortent un peu partout. Il y a une espèce de petit bâtiment en canisse de roseau, là. Et il y a des gens qui vous attendent avec une pelle.
On vous enterre vivant, sauf la tête, c'est ça ?
Exactement, comme quand on était gamin et qu'on allait à la plage.
Oui, on a
sauf que là,
ça.
Le sable est à 80 degrés.
Wow. Attendez, ça brûle les extrémités, les pieds, les... Non ?
Donc, en fait, ils mettent de l'eau, ils saturent le sable en eau.
Oui.
Cette eau absorbe la chaleur. Et puis, au fur et à mesure, eh bien, cette eau va s'en aller. Et donc, ça, vous allez cuire en croûte de sable.
Pendant combien de temps ?
Alors, au maximum 12 minutes. Et ils tiennent le chronomètre. Il faut absolument sortir ensuite parce qu'on risque vraiment la brûlure. C'est une expérience absolument incroyable.
Ça sert à quoi ? Ouais, alors ça apporte quoi au corps et à la santé ?
C'est un sable volcanique tout noir. Il est très dense. Et donc, ça appuie sur votre corps. Et là, d'un seul coup, vous avez cette chaleur qui sort de la Terre. Vous avez l'impression de faire corps avec la planète. C'est l'expérience la plus délassante que j'ai vécue sur les volcans. Et Dieu sait que je vais souvent sur les volcans. Mais c'est beaucoup plus délassant que l'eau chaude. Parce que vous avez l'impression de faire corps avec cette planète. Et ce sable qui vous appuie dessus, c'est formidable.
Et quand on en sort, il y a tout un cérémonial aussi. Après, comment ça se passe ?
Oui, alors la révélation, c'est qu'après, vous allez vous rentrer dans des thermes où il y a de l'eau chaude à 40 degrés. Et là, vous avez l'impression d'avoir une eau à peine tiède. C'est absolument divin. Et puis au fur et à mesure, vous revenez à une température normale. Et puis toute la soirée, vous êtes complètement cassé parce que ça vous ramollit complètement. Vos muscles se sont complètement détendus. Il n'y a plus de stress.
Et c'est une pratique japonaise ou c'est seulement pour les touristes ?
C'est une pratique japonaise. Tous les gens du coin, Kyushu, c'est la dernière île au sud du Japon. Et il y a des gens qui viennent de Tokyo uniquement pour faire le Tsunamushi à côté du Sakurajima, qui est un volcan qui est connu parce que c'est l'île des cerisiers en fleurs. Donc,
c'est beau.
Donc c'est un environnement très, 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 très beau. Mais le volcan fait 300 éruptions par an.
Et donc, alors, dernier mot, rapidement, ce qui provoque pour les élèves une obligation, laquelle ? D'aller à l'école avec un casque sur la tête, c'est à cet endroit-là ?
Ouais, le ramassage scolaire, donc quand vos enfants partent à l'école au Sakurajima, ils ont un casque sur la tête, ils n'ont pas le droit d'être tout seuls, donc il y a toujours les grands-parents qui les accompagnent jusqu'à l'arrêt de bus. L'arrêt de bus, c'est un arrêt en béton avec un toit qui fait 1,50 m d'épaisseur pour éviter les projections qui peuvent être des tout petits cailloux comme des bombes qui font plusieurs... dizaines de centimètres, voire mètres.
Les bus sont blindés aussi,
quand ça se fâche. Oh. Et c'est là qu'il y a le plus grand exercice d'évacuation au monde sur les volcans. Ça se fait le jour de la grande éruption de 1914, tous les ans au mois de janvier.
Merci beaucoup Arnaud Guérin.
Merci à vous.
Et à votre
Merci.
Livre « Les volcans et les hommes », publié aux éditions Glénat et RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.